Radio Okapi.
Dix-neuvième sommet de la francophonie. Ce samedi en est le deuxième jour. Hier à l'ouverture, la secrétaire générale de la francophonie a évoqué les actions menées par l'organisation en faveur des femmes de plusieurs pays membres, dont la RDC. Plus de détails dans ce journal. Journée mondiale des enseignants ce samedi 5 octobre à Bukavu, Sud Kivu. Notre correspondante Rachel Kiesse a accordé la parole à quelques enseignants. Plusieurs pensent que leur métier mérite honneur et respect. Le gouverneur du Maniema est l'invité de Radio Okapi ce midi. Moussa Kabouankoubi Moïse va parler avec Laurence Lunga sur son initiative de réhabiliter les routes du Maniema avec les fonds issus de la taxe conventionnelle. Bonjour à tous. Deuxième jour ce samedi du 19e sommet de la francophonie. Les chefs d'État et des gouvernements sont réunis à Paris pour, entre autres, statuer sur les demandes d'adhésion et débattre autour du thème « Créer, innover et entreprendre en français ». Hier vendredi, lors de l'ouverture de ce sommet, la secrétaire générale de la francophonie a évoqué les actions menées par l'organisation en faveur des femmes de plusieurs pays membres, dont la RDC. Pour Louise Mushikiwabo, la francophonie a aussi pour initiative l'autonomisation de la femme et de la fille. On l'écoute dans cet extrait que nous propose Martin Sebujangwe.
L'OIF, aujourd'hui, c'est aussi la priorité aux femmes. La francophonie avec elle, notre initiative phare, est au service de l'autonomisation des femmes et des filles qui a soutenu depuis son lancement en pleine pandémie en 2020 262 projets dans 29 pays bénéficiant aujourd'hui à 57 000 femmes. Ainsi, en République démocratique du Congo, notre grand pays francophone, ce sont 15 projets qui ont été soutenus, dont celui qui a permis à 1200 femmes et filles de se structurer en 41 groupements agricoles ayant accès au crédit des caisses d'épargne et permettant d'augmenter les stocks alimentaires dans leur ménage.
La question qui touche à l'état de siège en RDC touche directement à la sensibilité des opérations militaires dans l'Est et ne devrait pas être exposée dans un débat public. Affirmation hier du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Au cours d'une conférence de presse, Isaac Jean-Claude Tulumbay est revenu sur les propos du cardinal Fridolin Ambongo sur la faillite de la RDC et aussi sur l'intervention du chef de l'État à l'Assemblée générale de l'ONU. Pour Isaac Jean-Claude Tulumbay, actuellement la situation de la RDC est nettement meilleure par rapport à la situation d'il y a quelques années. Michel Kifindangoy.
Qu'il s'agisse du domaine des libertés que celui des droits de l'homme, sans compter du social et de la sécurité du pays, la RDC va mieux qu'il y a 10 ans, affirme le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Isaac Jean-Claude Tshilumbay.
Nous avons trouvé ici un budget de 4 milliards de dollars. C'est un budget apparent, mais en 2 ans, on amène ce budget de 4 milliards à 16 milliards d'un budget réel. On a mécanisé 600 000 enseignants, plus de 52 000 fonctionnaires de l'État. On construit des écoles, on construit des centres de santé.
À propos du débat autour de la révision de la Constitution, Jean-Claude Tshilumbay estime qu'il ne faudrait pas fétichiser ce débat.
Je peux vous surprendre qu'il a connu des révisions même dans sa version la plus radicale parce que l'article 220 a été modifié en 2011. On a inséré la possibilité que le gouverneur de province soit révoqué par le chef de l'État. Il y a des gens qui ont handicapé pratiquement 2 mandats en prenant les armes, alors que c'est ce que cette constitution avait voulu primordialement interdire. Il y a déjà un débat qui s'ouvre.
Le premier vice-président de l'Assemblée nationale salue le plaidoyer du chef de l'État à l'Assemblée générale de l'ONU sur la présence de la RDC au Conseil de sécurité comme membre permanent.
Il n'y a pas eu détournement de 42 millions de dollars dans le projet d'entrepreneuriat de jeunes dans l'agriculture et l'agrobusiness, PEJAB. Cette mise au point a été faite hier à Kinshasa par le coordonnateur national de ce projet devant la presse congolaise. D'après Richard Kialungila, PEJAB a reçu un financement de près de 57 millions de dollars pour réaliser plusieurs activités visant à lutter contre le chômage des jeunes, c'est-à-dire encourager les jeunes à investir dans le secteur agricole de manière à booster l'économie du pays et à créer de nombreux emplois. D'après le superviseur de ce projet, ce fonds sorti du Trésor public a permis de former 1004 jeunes dont 11 ont reçu des crédits pour financer leurs entreprises. Le coordonnateur national de PEJAB appelle au calme les jeunes dont les projets sont encore sous examen par la banque censée leur donner des crédits. Richard Kialungila le dit au micro d'Askin Zigbia Tayoro.
Il n'y a jamais eu détournement de fonds dans le cadre du PEJAB. Et montrer que le processus de financement tel qu'il a été conçu et mis en place épargne même les acteurs du prétention de détournement. D'autant plus que les décaissements, une fois que c'est fait au profit du jeune entrepreneur lui-même sans passer par une autre voie. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore été contactés par les banques, qu'ils prennent leur mal en patience, c'est un processus. Au fur et à mesure que la banque analyse les dossiers, le finalise, et chacun va être contacté pour recevoir son financement. Donc, ce n'est qu'une rumeur. C'est une mésinformation et je pense que nous avons donné la voie utile de ce financement-là.
PEJAB rappelle qu'un groupe de jeunes entrepreneurs avait récemment pris d'assaut le Parlement pour dénoncer le détournement de 42 millions destinés à financer leur projet. Ce 5 octobre, c'est la journée mondiale des enseignants, une occasion de célébrer ceux qui font de l'éducation formelle une réalité, mais aussi faire entendre leur voix. À Bukavu au Sud, Kivu, certains enseignants pensent que ce métier mérite honneur et respect. Mais malheureusement, ce n'est toujours pas le cas, que ce soit de la part des parents, des élèves ou même de la société en général. Rachel Kessembango a rencontré quelques enseignants de Bukavu. Suivez.
Le constat que font les enseignants sur la valeur leur accordée est amer. Pourtant, affirme-t-il, l'enseignement est un métier noble. Monsieur Ngama Alexis, enseignant au complexe scolaire Arche de l'Unité de Bukavu, qui a plus de 10 ans dans l'enseignement, explique.
La valeur, on dirait, c'est la première de toutes les activités de l'homme. Pourquoi ? C'est nous qui façonnons les dirigeants de demain, les prêtres, les pasteurs, les mécaniciens, les politiciens, bref, tout et entre les mains de l'enseignant. C'est-à-dire, c'est un métier noble qu'en principe l'humanité devrait vraiment valoriser. C'est pourquoi moi je suis fier d'être enseignant.
Du même avis, Madame Solange Nsimire appelle la société congolaise au respect de l'enseignant qui a le pouvoir de façonner le monde par l'éducation.
Aujourd'hui, l'enseignant, vraiment, il est négligé. Il devient quand même misérable. Hein? Avant, on considérait les enseignants, on donnait beaucoup de valeur aux enseignants, mais aujourd'hui, on ne sait pas c'est quoi. Vraiment, il faut que la société congolaise s'y mette beaucoup, prenne vraiment l'enseignant avec beaucoup de valeurs.
Rappelons cependant que les enseignants du primaire des écoles publiques sont toujours en grève au Sud Kivu, cela depuis la rentrée scolaire, il y a plus d'un mois maintenant. Bukavu, Rachel Kiesse, Radio Okapi.
Au Nord Kivu, dans la cité frontalière de Kasindi, à 90 km de la ville de Beni, les habitants du quartier Mwangaza n'ont toujours pas d'eau potable malgré les efforts déployés par les acteurs de la société civile et les leaders communautaires. Ces derniers demandent aux autorités d'intervenir rapidement pour trouver une solution durable à cette situation qui affecte le quotidien de la population. Depuis Beni, Marc Marofimbo.
Mwangaza est un quartier populaire de la cité de Kasindi situé au pied des collines du massif de Rwenzori qui domine le groupement de Basongora. Depuis 3 ans, les habitants de ce quartier n'ont pas accès à l'eau potable. Ils sont contraints de parcourir de longues distances jusqu'à la douane ou au quartier voisin de Kongoyasika pour se ravitailler en eau. Cette situation préoccupe la société civile qui, malgré les efforts conjugués avec ceux des leaders communautaires, déplore le manque de volonté des dirigeants pour résoudre ce problème. Cependant, les fonctionnaires délégués du gouverneur de la région reconnaissent la situation et mentionnent un projet en cours pour apporter une solution solution à ces problèmes. Barthélémy Kambale.
C'est vrai, l'eau est un besoin ressenti dans l'agglomération de Kassindi. Pour le cas de Mwangaza et Kongo-Asika, ça peut être vrai parce que pour le moment, on est en train de faire un projet local pour alimenter, faire un raccordement d'eau dans les quartiers Kongo-Asika. Et c'est déjà une grande réalisation. Nous, ça, c'est un cri d'alarme, encore une fois, à toutes les personnes de bonne volonté, des ONG humanitaires, et puis une alerte, et ça concerne surtout notre gouvernement aussi, que ce soit national, provincial, pour voir comment intervenir pour alimenter Kassindi en eau potable suffisante.
Depuis 2021, les installations qui approvisionnent la cité frontalière de Kassindi en eau potable, depuis Kitsumbiru et les massifs de Rwenzori, ont été détruites par les eaux de pluie. Beni Marc Marofimbo, Radio Okapi.
L'équipe médicale des casques bleus bangladais de la MONUSCO a organisé hier une campagne de sensibilisation contre la variole de singe ou monkeypox. Cette sensibilisation s'est déroulée à l'école primaire Kanyasi, non loin de l'aéroport. D'après la docteure Rabayat, médecin militaire au sein de ces contingents, c'est dans l'objectif d'expliquer aux élèves, aux parents et à d'autres membres de la communauté les mesures à prendre pour se prévenir contre cette maladie qui a déjà tué plusieurs personnes en RDC. Le point dans ce reportage de Jean-Claude Lokidile.
Masques, désinfectants, fiches de sensibilisation à images, bref, tous les moyens didactiques sont utilisés pour expliquer à la population comment se mettre à l'abri de Mpox. Plus de 400 élèves de cet établissement scolaire auxquels sont joints leurs enseignants et leurs parents ont bénéficié de cette sensibilisation. La docteure Rabayat explique la raison de la tenue de cette campagne.
L'école est une meilleure place où nous pouvons trouver beaucoup d'élèves pour les sensibiliser contre les Mpox. Nous donnons des fiches aux enseignants et leur expliquons comment le Mpox se propage pour nous prévenir contre le Mpox.
Une sensibilisation couplée d'une campagne de consultation et soins gratuits administrés aux malades souffrant de plusieurs pathologies. Le but est de venir en aide aux habitants de ce quartier, parmi lesquels les démunis qui éprouvent des difficultés pour se faire soigner. Victorine Bokotaiki, qui vient de recevoir des soins, exprime sa joie.
Je suis souvent malade et je n'ai pas d'argent pour me soigner. J'ai des douleurs au bras, parfois j'ai des maux de ventre et d'estomac. Les médicaments qu'ils nous donnent nous aident beaucoup. Nous disons merci d'avoir bénéficié des soins gratuits.
Notons qu'un don des fournitures scolaires composé de stylos, crayons, gommes, taille crayon, poubelle a été offert aux élèves de l'école primaire Kanyasi, Bounia. Jean-Claude Loki, Dile, Radio Kapi.
La piste de l'aéroport national de Morongo à Bounia ne sera pas fermée, mais elle sera juste rétrécie de 700 mètres. C'est pour permettre l'atterrissage des petits avions à moindre capacité de tonnage. Précision hier du commandant de la régie des voies aériennes RVA dans une communication à la presse à Bounia. Jean-Paul Bunangana rassure que le trafic aérien entre Bounia, Goma, Kisangani et vers d'autres destinations continue normalement sur la partie de la piste qui reste opérationnelle. Cette disposition est prise en attendant la fin des travaux sur la partie concernée. Ces travaux devraient prendre 3 mois. Jean-Paul Bunangana est au micro d'Ezekiel Mouzalia.
Maintenant, nous atteignons la phase à laquelle les travaux entrent sur ce que nous avons bientôt appelé la sienne piste. Et cette piste-là, la sienne piste, sera habitée de 700 mètres pour continuer avec les travaux. Le principe, c'était que les travaux vont évoluer en même temps que le trafic. Et c'est ça qui est d'application, c'est-à-dire en habitant la sienne piste de 700 mètres pour cause des travaux, il nous restera seulement 1100 mètres. Et vous voyez vous-même que ça va recevoir des avions de moindre capacité. Mais l'aéroport ne sera pas fermé. La population de Rutshuru sera tout à fait bénéficiaire. Pourquoi? Parce que ça va peut-être rencontrer tout le monde. Et surtout si on arrive à terminer les 2500 mètres, où c'est dimensionné pour un Airbus A320. Nous aurons de gros avions, et surtout des avions cargo. Vous savez que l'Ituri, c'est surtout aussi l'agriculture et l'élevage. Et je pense que là-bas, tout le monde pourra se retrouver. Parce qu'on aura la facilité d'évacuer tous ces produits-là dans des grandes villes du pays. De la viande, du poisson, des légumes et tout ça.
En plus bref, notez que le ministre du portefeuille Jean-Lucien Boussa a suspendu hier le directeur général de Congo Airways, José Louis Adoubière, et son adjointe Marie Pochilobo. Plusieurs griefs sont mis à leur charge, notamment la mégestion. Ils sont également accusés de créer un climat malsain au sein de cette entreprise et d'entretenir des divisions entre les agents. Pourtant, en juillet dernier, Jean-Lucien Boussa avait lui-même annulé la décision du conseil d'administration de Congo Airways portant révocation de José Louis. À À l'époque, il avait motivé sa décision par le fait que le conseil d'administration de Congo Airways avait outrepassé les limites de son pouvoir, vu que la révocation du personnel ne fait pas partie de ses attributions. La ville de Lubumbashi, d'environ 10 millions d'habitants, compte une dizaine d'agences de voyage. Ces agences exploitent entre autres les axes Lubumbashi-Likasi, Lubumbashi-Fungurume, Lubumbashi-Kolwezi ou encore Lubumbashi-Kasumbalesa. La plupart des bus de ces agences stationnent sur la voie publique car la ville ne dispose pas de parking public répondant aux normes. C'est ainsi que sont nées les initiatives privées qui sont saluées par la population. Un reportage de Jean Gandou Kabongo.
Nous nous sommes rendus au centre-ville, notamment sur l'avenue Mouero. Un grand bus avec des passagers à bord s'apprête à rejoindre la ville de Kolwezi dans le Lualaba. Cet homme, la soixantaine révolue, assis aux côtés des changeurs de monnaie et s'indigne.
Le maire de la ville, il n'a pas des agents sur le terrain pour voir qu'est-ce qui se passe réellement. Tous ces gens ici devaient être délocalisés. Tout le monde vient et parque là où il veut et il est en train d'exploiter là où il veut.
Cette agence dont les grands bus stationnent sur la voie publique n'est malheureusement pas la seule, indique-t-il. Plusieurs autres sont logés à la même enseigne. Cependant, une autre qui fait exception se trouve à l'entrée de la ville. À en croire nos interlocuteurs, bien qu'étant une initiative privée, elle force admiration et respect.
Non, mon cap, ce qu'il a fait, comme Afrique du Sud, c'est bien.
Extraordinaire. Il a choisi un endroit qui est approprié pour lui-même. Contrairement à ceux qui sont ici en ville, qui sont en train de boîte de fer, d'embouteillage.
D'autres agences achètent des parcelles qui sont tout autour de leur siège et les transforment en parking pour ne pas stationner sur la voie publique. Il y a quelques années que le gouvernement provincial du Haut-Katanga avait initié les travaux de construction d'un terminal. À ce jour, les travaux sont inachevés et à l'arrêt. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Actualité internationale.
À Madagascar, 6 détenus sont morts de malnutrition en prison à Mananjari, dans le sud-est de l'île. Les décès se sont succédés entre le milieu du mois d'août et la fin du mois de septembre, selon l'administration pénitentiaire. Alors que les prisons malgaches sont confrontées à une surpopulation carcérale et à un manque de moyens considérables, ce drame remonte aussi les mesures prises par l'État après sa promesse en 2019 d'humaniser ces prisons. Il s'agit là d'un cas isolé, assure le directeur général de l'administration pénitentiaire, Arsène Ralisoana. Il affirme qu'à leur entrée en détention, ces prisonniers étaient déjà malnutris. En réponse au drame, du riz, de l'huile, mais aussi des compléments alimentaires ont été livrés pour sauver des vies à Mananjari, explique le ministère de la Justice.
L'invité.
À quelques semaines du lancement de l'initiative sur la réhabilitation des routes du Maniema avec les fonds issus de la taxe conventionnelle, la province du Maniema vient de mobiliser au moins 40 000 $ américains. Ainsi, le gouverneur de province Moussa Kabwankubi Moïse a décidé de débuter les travaux de réhabilitation des routes. Dès ce week-end déjà, les travaux doivent commencer dans le territoire de Kailo sur la route nationale numéro 31. Pour en parler, l'invité de ce journal est le gouverneur du Maniema. Il s'entretient avec Florence Kizalunga.
Monsieur le gouverneur Moussa Kabwankubi Moïse, bonjour.
Bonjour Madame Florence.
Déjà, la taxe conventionnelle produit des fruits?
Effectivement, là nous venons de lancer un premier chantier dans le cadre de nos 100 jours. Nous venons de lancer un chantier de 20 km sur la route Kailo. Ce tronçon sera réhabilité par la méthode IMO sur financement des taxes conventionnelles. Donc c'est pour dire que nos taxes commencent déjà à produire les fruits.
Ça commence là, ça va se limiter ou bien ça va s'étendre dans toute la province?
Évidemment, ça va s'étendre parce que déjà, après la grande conférence que nous organisons au milieu du mois d'octobre, nous pensons que au début du mois de novembre, nous allons lancer un chantier sur toutes les routes de notre province, toujours avec la méthode IMO, pour les rendre opérationnels aussi bien pendant la saison sèche que pendant la saison des pluies. Parce que nous estimons que les plus grands problèmes, sinon les premiers des problèmes que connaît notre province, c'est les problèmes de clavement. Et en réhabilitant ces routes-là, même s'il s'agit de la méthode IMO, ça sera déjà un grand soulagement pour notre population.
Pourquoi avoir choisi la méthode du IMO et aussi pendant ces travaux, est-ce que la route sera fermée ou bien ça sera comment?
La méthode IMO, ça signifie haute intensité de main d'œuvre, c'est-à-dire ça va utiliser la population locale. C'est déjà un avantage parce que tout ce qui sera payé sera en faveur de la population. Nous voulons un cercle vertueux de développement, c'est-à-dire ce que les opérateurs économiques paye en termes de taxes conventionnelles, retourne à la population en termes de dépenses de rémunération, en termes d'achats que nous aurons à faire, en termes de carburant et autres. Et cela va nourrir notre modèle pour que le modèle puisse perdurer. La route sera ouverte. Il n'y a pas de raison de fermer la route pendant qu'on sera en train de travailler.
Comme c'est les premiers fruits, est-ce qu'on peut savoir, le gouvernement provincial a mobilisé combien d'argent auprès des opérateurs économiques dans le cadre de cette initiative?
Nous avons déjà mobilisé, depuis qu'on a commencé, 40 000 $. En tout cas, la base de ces modèles, c'est la confiance, c'est la transparence. Aucun dollar ne sera utilisé ou consommé au dos de la population du Mali.
Nous avons appris qu'il y a même certains volontaires qui ont adhéré à votre initiative, notamment les professeurs d'université.
Oui, c'est ici l'occasion de louer l'initiative du professeur Casimir, qui est professeur à l'université de Kindu, qui a répondu favorablement à notre appel. Et nous, on a été vraiment surpris positivement, pour ne pas dire très positivement. Déjà, les professeurs ne sont pas les mieux payés du pays, mais sur son salaire-là, il a décidé d'allouer à la fin de chaque mois $20. Et ce qui nous a surpris, c'est qu'il a remis 240 comme sa contribution à titre de taxes conventionnelles pour toute l'année 2024. C'est ici l'occasion d'appeler les autres catégories socio-professionnelles parce que vous devez noter que le développement de la province, ce n'est pas l'affaire du gouverneur, c'est l'affaire de nous tous.
Et dans votre délégation, nous voyons aussi le conseiller principal du chef de l'État en matière des infrastructures. Il est venu vous appuyer?
C'est ici l'occasion de remercier son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour nous avoir envoyé son conseiller principal en charge des infrastructures. Et là, nous nous rappelons de la sage histoire racontée dans la Bible, l'histoire des talents. On avait laissé des talents. Il y a quelqu'un à qui on avait laissé un talent. Lorsque le patron est revenu, après des années, il dit non, le patron est méchant. Moi, je l'ai gardé sous mon lit. Voilà votre talent, il est là. L'autre à qui on avait laissé 2, il a remis 3. Mais un autre à qui on a laissé 5, le patron l'a trouvé avec 15. Et nous pensons, même si nous attendons l'appui du pouvoir central ou des partenaires au développement, nous ne devrions pas croiser les bras. Nous devrions d'abord compter sur nous-mêmes, fructifier déjà ce que nous avons comme talent. Et c'est ça l'idée de ce que nous avons mis en place comme taxe conventionnelle.
Monsieur le gouverneur Moussa Kabankoubi Moïse, je vous remercie.
Merci Madame Florence.
Et c'est la fin de ce journal, coordonné par Jacques-Yves Molima, mis en onde par Pierre Diassinois et présenté par Noëlla Luzitu Kabambi. Merci à vous tous qui nous avez suivis.